Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ça commence par nous, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émission qui vous aide à changer le monde, tout simplement. Et oui, ici, on vous propose des actions simples et concrètes, quelles que soient vos compétences, vos moyens et vos disponibilités. Moi, ma promesse, c'est qu'à la fin de l'émission, vous aurez tout un tas de solutions à mettre en place tout de suite, là, maintenant, sans contrainte, dans votre quotidien. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui fait de plus en plus de bruit, le véganisme. Pourquoi en parler ? Eh ben, avec 90 kilos de viande ingérée en moyenne par chacun sur une année, l'alimentation carnée continue de régner sur l'assiette des Français, alors que l'élevage est entre autres responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre et de 80% de la déforestation en Amazonie. Et au-delà des préoccupations environnementales, la consommation de viande, elle pose également la question du pouvoir de l'être humain sur les autres espèces vivantes. Nous, qui sommes responsables littéralement de la sixième extinction de masse, ne devrions-nous pas revoir finalement notre place sur cette terre pour un monde plus heureux et plus harmonieux? Alors du coup, pendant une heure, nous allons tenter de répondre à ces questions et d'apporter un point de vue optimiste et bienveillant sur un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse. Pour nous aider, nous recevrons des gens qui se bougent dans ce milieu. On aura Olivier Gramin de l'association L214, on aura Mel Pigut, blogueuse culinaire vegan, et enfin Shema Bourguiba qui a ouvert le concept store vegan aujourd'hui, demain. Sur le plateau avec moi, il y a bientôt bien sûr Charles, le nouveau venu de l'équipe des Dénis, pour nous parler de zéro déchet, et Mélanie de One Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous!
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, je vous le disais, on parle de véganisme et on accueille tout de suite Olivier Gramin de l'association L214. Salut Olivier.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien, merci de me recevoir.
On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les missions de L214 ?
Alors, ouais, effectivement, c'est dans le vif.
L214,
donc notre mission première, c'est de montrer la réalité de l'élevage et des abattoirs. C'est-à-dire qu'on a souvent des contes de fées en tête quand il s'agit de comment les animaux sont élevés et tués. On se rend compte que la réalité, elle est juste difficile, voire impossible à regarder la plupart du temps. La plupart des gens ne veulent pas voir ce qui se passe. Donc nous, notre mission, c'est de montrer, c'est de donner des informations aux citoyens, aux consommateurs, pour qu'ils puissent faire des choix éclairés au niveau de son alimentation. Comme tu l'as très bien dit en introduction, la viande, ça représente une part importante de notre alimentation. Enfin, donc, quand je dirais la viande, on parle de la viande et du poisson, évidemment, et au-delà de ça, des produits laitiers et des œufs. Voilà, enfin, viande, ça inclut vraiment le poisson dans notre approche. Donc c'est d'abord d'informer et de montrer la réalité de l'élevage et des abattoirs, de soulever la question de l'exploitation des animaux à des fins alimentaires, parce qu'L214, c'est une association qui s'occupe des animaux qui sont destinés à être mangés, tout simplement, qui représentent plus de 99% des animaux exploités de façon globale. Et au-delà de ça, d'interroger sur la question du spécisme, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est normal, naturel et nécessaire d'enfermer, de parquer des animaux, de les mutiler dès la naissance quasiment, voire pas du tout quasiment, et à la fin de les tuer en masse. On tue chaque jour en France 3 millions d'animaux terrestres et à peu près 10 fois plus sur l'ensemble des zones côtières de France d'animaux marins. Voilà, donc dont à peu près 2 500 à 700 000 poulets. Tout ça, donc c'est vraiment un carnage qui se déroule chaque jour dans notre beau pays de France. Et ça pose peut-être question sur notre approche. Comment est-ce qu'on considère les animaux? Comment est-ce que nous, on se considère comme des créatures paisibles, bienveillantes envers notre prochain quand à côté de ça, notre pays est recouvert d'abattoirs où on tue les animaux en masse de façon permanente.
Et ça, maintenant, je pense qu'à peu près tous les Français ont été confrontés à un moment ou à un autre. Et quand je dis confrontés, c'est vraiment un mot j'utilise à dessein, parce que c'est vrai que c'est dur de voir ça aux vidéos de L214.
Tout à fait, voilà, depuis 2015, ça a commencé avec l'abattoir d'Alès, on a montré ce qui se passait dans 7 abattoirs depuis, un certain nombre d'élevages, on continue encore, on s'occupe beaucoup en ce moment aussi des poules pondeuses, très important, parce que la situation des poules et en général des petits animaux, elle est vraiment très préoccupante, parce que les animaux, plus ils sont petits et moins ils sont manipulés avec soin, donc on le voit très bien dans le cas des poulets de chair, des poules pondeuses, On est vraiment devant une façon de traiter les animaux qui est extrême, encore plus que pour les autres animaux. On regarde aussi du côté de la fourrure en ce moment, on se rend compte qu'il reste quelques élevages de visons en France, que globalement la population est vraiment massivement contre la fourrure. Donc voilà, il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là, parce que autant les gens peuvent être persuadés que manger de la viande c'est important, on travaille aussi, on va en parler avec un certain nombre de campagnes pour montrer que c'est pas le cas. Mais la fourrure, personne ne peut dire que c'est vital la fourrure en 2018 en France, quoi.
Mais bon, alors là on est rentré vraiment dans le vif du sujet, mais du coup moi je peux pas m'empêcher de te poser cette question tellement naïve: pourquoi et comment réagir face à ces gens qui disent mais il est où le problème à manger de la viande?
Bah, c'est une question complexe. Effectivement, on a tous été élevés, et moi le premier, en mangeant de la viande. Hein. Avant, il y a quelques années de ça, j'étais vraiment un gros viandard. Hein. Voilà, je fais partie des pires de mon entourage.
C'est bien de le dire. Ça montre que tu as aussi avancé.
Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Mais voilà, on est tous partis d'un... Voilà, je suis breton d'ailleurs, c'est dire si la viande, c'est une religion d'État dans ma famille. Mais on est tous capables d'avancer. Voilà, Sébastien Arsac, un de nos deux fondateurs, ses parents étaient, je veux pas dire de bêtises, bouchers, ou au moins un de ses deux parents. Donc voilà, on vit tous dans un monde qui est fondamentalement spéciste, dans un monde où on mange de la viande, où c'est normal et banal. En France en particulier, on a une culture gastronomique qui est vraiment, vraiment axée autour de la viande, beaucoup plus que ce qu'on connaît dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment partie d'un état des choses aujourd'hui, quoi. Donc comment on en arrive à évoluer, bah, ça dépend des gens. Il y a mille chemins différents.
Ça, on en parlera un peu après. À la fin, tu nous partageras toutes ces pistes aussi. Mais c'est vrai que là, dans la manière dont tu l'as dit, je trouve que c'est intéressant de le noter. Quand tu vis dans une société où tout est organisé autour de ça, finalement, le simple fait de te poser la question est illogique. Hein, c'est vraiment ça. Et tu vois, je cherchais des chiffres, j'arrive à voir, j'ai trouvé, je sais pas, dis-moi si je me trompe, qu'il y a environ 5% de la population qui sont soit végétariens ou végétaliens. Pourquoi si peu de personnes ?
Alors effectivement, ouais, on n'est pas sûr du chiffre exact. Il y a beaucoup de flexitariens, ce qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire des gens qui diminuent leur consommation de viande, donc c'est difficile de dire où ils se situent dans l'échelle. Enfin, ça recouvre toutes sortes de comportements alimentaires. Tu as des gens qui vont manger vegan ou végétarien chez eux et manger de la viande dehors par convention sociale. Il y a des gens qui vont manger par exemple que du poisson, donc est-ce que... Enfin, techniquement, ils ne sont pas végétariens puisqu'ils mangent de la chair animale, mais malgré ça, beaucoup vont se déclarer comme végétariens. Il y a aussi un problème de connaissance des définitions à ce niveau-là. C'est pourquoi est-ce qu'on est si peu? C'est difficile à dire aujourd'hui, on est plus qu'avant. On est beaucoup plus qu'avant.
En particulier chez la jeunesse, j'ai l'impression que ça bouge particulièrement chez les jeunes.
Ouais, ça bouge beaucoup. Ouais. Effectivement, il y a encore 10-15 ans, être vegan, c'était vraiment quelque chose qui appartenait au mouvement anarchiste, libertaire, punk. Et aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait les couvertures des journaux, on en parle dans les médias, tout le monde connaît le terme. Moi, il y a 5 ans, quand je suis devenu vegan, donc je suis pas un vieux vegan encore, mais c'était un mot que personne ne connaissait. Quand il y avait un micro entre filets dans un journal, c'était la fête, etc. Aujourd'hui, il y a plus un jour sans qu'il y ait une
ouais, qui... On en parle beaucoup, hein. Ouais. Il y a eu Libé, là, il n'y a pas longtemps, qui a fait un papier, on y reviendra aussi. Mais je continue à enfoncer des portes ouvertes, hein, tu m'excuses, mais dans ce cas-là, pourquoi être finalement végétarien, c'est suffisant, non?
Alors en fait, être végétarien, c'est mieux que rien. Voilà, punchline, gratuit. Mais être végétarien, c'est quand même consommer des produits laitiers et des œufs. Donc pour faire des produits laitiers, on utilise en général des vaches ou alors des chèvres essentiellement. Et donc pour avoir du lait d'un mammifère, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que ce mammifère, donc cette femelle mammifère, ait un petit. Il faut que ce petit, on lui enlève parce que sinon, il va boire le lait de sa maman. L'industrie laitière, ça repose sur le fait d'inséminer des vaches tous les ans et de leur enlever leurs petits systématiquement ou quasi systématiquement à la naissance pour pouvoir profiter de leur lait, avec au-delà de ça des gros problèmes de souffrance animale, par exemple le fait d'être traité tous les jours comme ça intensivement pendant leurs 4 ou 5. Une vache, ça peut vivre 20 ans, une vache laitière, ça vit 5 ans. C'est déjà très long par rapport au cycle de vie d'un animal dans l'exploitation animal alimentaire. En général, au bout de 5 ans, sa production de lait diminue et elle finit à l'abattoir. Et donc, pendant ces 5 années, elle a inséminé tous les ans, on lui enlève son petit tous les ans, on la remet à la traite. Et les treilleuses, ça occasionne très souvent des mammites, c'est-à-dire qu'elles ont les mamelles qui s'enflamment. Du coup, ça libère souvent du pus, du sang dans le lait. Hein. Donc, c'est un peu trash, mais il y a des normes autorisées de pus dans le lait.
Il faut
le savoir. Ce qu'on appelle des cellules de pus qui sont dans le lait. Donc voilà, ça c'est pour le lait, c'est pas très beau. Parlons des œufs rapidement. Pour faire des œufs, il faut une poule pondeuse. La poule, quand elle sort de l'œuf, ça peut être soit un mâle, soit une femelle. Si c'est un mâle, évidemment, elle ne pondra pas d'œuf de sa vie. Et donc, on l'a montré notamment dans des élevages à Saint-Arnin. il y a quelques temps avec L214 que les poussins mâles sont soit broyés, soit jetés à la poubelle vivants par bac entier dans des sacs qui sont juste refermés sans même se donner la peine de les tuer. Donc voilà, la situation des poules pondeuses, au-delà des poules en cage, elle est aussi vraiment dramatique.
Voilà, le contexte, il est là, il est posé, on a mis les choses sur la table, dénoncer, mais aussi construire. Et proposer et guider. Hein, c'est ça aussi l'une des missions d'L214. C'est ma dernière question pour toi, pour les personnes qui justement ont envie de changer. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir et consulter sur votre site internet et dans votre démarche?
Alors on peut commencer déjà par Vegan Pratique, qui est un site qu'on a mis en place, qui contient vraiment toutes les données possibles et imaginables sur l'aspect nutritionnel. Voilà, c'est validé par des nutritionnistes, par des médecins, par des spécialistes de santé. Donc, tout ce qu'il y a dessus, c'est vraiment quelque chose qui est backé, rien n'est laissé au hasard dessus. Il y a aussi un tas de recettes, des très faciles, des plus ambitieuses, du sucré, du salé, de la pâtisserie, tout ce qu'il faut. Donc c'est un très bon point. On a mis en place le Veggie Challenge aussi. Donc c'est un challenge qui dure 21 jours, on s'inscrit, c'est complètement gratuit. On reçoit tous les jours un email avec des informations nutritionnelles, avec des recettes, des choses comme ça pour tester. On peut tester pendant 21 jours d'être vegan. Voilà, pour les gens qui ne se sentent pas prêts à sauter ce pas-là, même si encore une fois c'est facile et ça n'engage en rien, on peut aussi intégrer un repas vegan dans sa semaine par exemple, ou faire une journée vegan. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont commencé en faisant une journée vegan simplement, ils se sont rendus compte qu'au niveau de la santé, ils se sentaient super bien, ils digéraient bien, tout allait bien pour eux.
Et même au resto.
Et même au resto, grâce à Végoresto, merci pour la
passe
cadrée et la transition. Donc Végoresto, c'est une campagne qu'on a mis en place. On vient de passer la barre des 1000 restaurants consignés. Et donc Végoresto, c'est simplement une campagne qui s'adresse aux restaurants classiques et qui les invite à proposer un menu complet vegan, entrée, plat, dessert, à leur carte. Ça permet aux vegans de se retrouver dans des restaurants spécifiquement vegan, de pas devoir y traîner leurs amis et leurs familles mangeurs de viande. On peut tous aller dans le même resto. Ça permet aussi aux gens qui simplement aiment pas trop la viande ou qui ont envie de changer, d'essayer un truc de nouveau, de pouvoir essayer un la vegan facilement dans un restaurant, quel qu'il soit.
Ouh, on va respirer un petit peu. Tu nous as donné énormément d'informations. Je te remercie, Olivier. Tu as posé le contexte. Tu nous as aussi parlé là, très rapidement de solutions. On va revenir dans cette émission. On aura d'autres invités qui nous parleront du concret, de comment agir. Tu as parlé de l'isolement que peuvent vivre aussi certains véganes au niveau social, de la pression de l'entourage. On y reviendra, vous inquiétez pas. Je te remercie. On se reparle, nous, tous les deux. Tu nous rejoindras pour le débrief en fin d'émission. Pour ceux qui veulent, hein, quand même, je vous le redonne. Allez creuser toutes tes solutions dont tu nous as parlé. Il y a le site L214.com et nous, évidemment, on vous partagera ça sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite, on se fait une première pause musicale.
J'entends les murmures de la ville que la nuit a mise à nu. Le fracas des automobiles qui filent. Juste un instant, sais-tu? Dans la brume électrique, elle dort sans dessous dessus, et son corps encore inconnu laisse entrevoir son cœur qui cogne un peu plus fort, toutes ses couleurs qui courent encore. Est-il trop tôt? Est-il trop tard? C'est comme les filles qu'on embrasse, mais qu'on ne voit jamais de face. Le refrain sans accord des sirènes du soir.
C'est comme une fille qu'on embrasse, mais dont le souvenir s'efface. commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
De retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on aborde ensemble la question du véganisme.
Ça commence par nous.
Et tout de suite, nous accueillons dans cette émission Mel Pigu. Mel Pigu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice du blog culinairepigu.com et ma première question, c'est pourquoi vous êtes mis à la cuisine végane ?
Eh bien, parce que j'ai décidé de devenir végane et que c'était il y a une dizaine d'années et que je me suis retrouvée devant le fait accompli qu'il était très difficile de manger végane à l'époque si on ne cuisinait pas. Donc, je m'y suis mis et j'ai trouvé ça passionnant.
Première idée reçue, alors, parce que souvent j'entends, oui, les véganes, ils achètent tout transformé, ça vient de supermarché, c'est suremballé.
On nous dit tout et rien en fait, notre alimentation elle est soit trop difficile et en même temps trop industrielle. Des fois on nous dit que on mange que des graines, après on se rend compte qu'on mange des gâteaux, on nous dit ah ben non vous mangez pas équilibré. Donc on nous reproche plein de trucs et en fait tout est son contraire, je crois que c'est que les gens ont peur, connaissent pas bien. Mais en vrai c'est une alimentation qui, comme l'alimentation classique omnivore, est hyper variée en fait. Donc on peut très bien manger des trucs industriels. On peut manger du fait maison, on peut manger très sain, très pas sain, donc c'est hyper varié.
Ça fait du bien de le dire, hein, et c'est pour ça aussi qu'on a envie de montrer des gens qui, eux, portent à bras le corps ce sujet, mais de manière aussi positive, concrète, optimiste, bienveillante. Moi, j'ai lu sur votre blog que vous avez eu une démarche d'être d'abord végétarienne, puis ensuite végétalienne.
Exactement, en fait, je suis devenue végétarienne très tôt, j'avais à peu près 13 ans. Et j'avais pas envie de faire du mal aux animaux, tout simplement. Et puis, plus tard dans ma vie, y a eu Internet, il y a eu de l'information, et j'ai découvert un peu ce qu'était l'antispécisme. J'ai découvert les vrais... comment étaient traités les animaux. On n'en a aucune idée, en fait. C'est vrai, si on se renseigne pas un petit peu. Et j'ai compris que le lait posait aussi problème, les œufs. Et du coup, je me suis remise en question, et là, je suis devenue végane, donc un peu plus de 10 ans après.
Et tout ça, vous l'avez raconté sur votre blog avec des idées de recettes, des dizaines et des dizaines d'idées de recettes.
Ouais. J'aime bien en fait la créativité qu'apporte cette cuisine qui n'a pas encore
de standards.
C'est ça. Donc on peut vraiment créer, on peut imaginer n'importe quoi et chaque jour on découvre quelque chose de nouveau.
C'est presque un côté aventurier, non ?
Ouais, carrément. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette cuisine. Et à la fois, si on veut, ça peut aussi être quelque chose de très pépère et de très... on peut rester aussi sur ce qu'on connaît parce qu'on est très capable de faire une cuisine française, végane, tout ce qu'il y a de plus classique. On va juste un peu remplacer la viande par d'autres produits. Donc, c'est vraiment... ça peut plaire à tout le monde, quoi.
Deuxième idée reçue, on peut manger végane et continuer à magnifier nos traditions culinaires françaises, donc.
Exactement.
Extraordinaire. Déjà, deux idées reçues, on continue. Je voulais profiter de votre savoir, de votre expertise, Mel, pour entrer un peu dans le concret aussi. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se mettre à la cuisine végane ?
Eh bien, de se lancer déjà, premièrement, mais à son rythme. Souvent, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par noter ce qui est déjà végé, vegan dans son alimentation. Des trucs tout bêtes, mais auxquels on ne pense pas. Peut-être que, je sais pas, il mange des nouilles sautées, de la ratatouille, dans lequel il ne met pas forcément de produits animaux. Donc, les noter pour déjà avoir une base de choses qu'on connaît déjà et qui, du coup, sera facile à faire.
Bien sûr.
On a déjà ça.
Bien sûr, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on mange tous vegan déjà d'une manière ou d'une autre.
Mais oui, parfois, on mange vegan, on ne s'en rend pas compte.
Mais oui.
Donc donc ça c'est bien de le pointer, comme ça déjà ça nous fait une bonne base, on sait où on en est. Et puis je conseille d'explorer la blogosphère végane, de s'acheter quelques livres et de se dire cette semaine j'essaye telle recette. Pas forcément aller trop vite, pas forcément acheter des millions d'ingrédients. Il y a des gens qui pensent que végane ça veut dire acheter des graines de chia et... des choses très très chères et pas facilement trouvables. Pas forcément faire ça, c'est bien de découvrir des nouveaux ingrédients, mais un ou deux par semaine, c'est déjà sympa. Sinon, en fait, on perd pied et on a un placard plein et ça nous aide pas vraiment, en fait.
Doucement, mais sûrement.
Doucement, mais sûrement, et à la fois en végétalisant ce qu'on connaît déjà. Par exemple, je sais pas, vous regardez, d'habitude, vous mangez une pizza 4 fromages, vous mettez autre chose à la place du fromage. Et puis, donc à la fois végétaliser ce qu'on connaît, et puis aller découvrir des nouvelles choses. Et puis on peut aussi piocher dans les recettes du monde parce qu'il y a des pays où il y a plus de recettes véganes que d'autres, comme l'Inde qui est très
végétarien,
même s'il y a un peu de beurre et de choses comme ça, mais ça reste assez abordable. Le Liban, l'Italie et vers l'Asie en général avec l'utilisation du tofu et ce genre de choses, ça peut être des bonnes inspirations. Je pense qu'il faut s'ouvrir à la curiosité et en général, on nous dit souvent « Ah, vous êtes végétarien, vous vous privez de plein de choses ». Ce qu'on découvre quand on devient vegan, c'est que au contraire, on s'ouvre à un nouveau monde et c'est assez génial.
Génial, ouais, ça donne hyper envie, cette ouverture. J'avais envie de vous demander très rapidement, mais peut-être une petite recette hein, pour illustrer à quel point cuisiner vegan, ça peut être simple et bon en même temps.
Une petite recette, y a un truc qui est assez sympa à faire. De se faire, vous savez, c'est un petit peu à la mode en ce moment, donc on peut en profiter, c'est les veggie bowls, les buddha bowls, tout ça. Et en fait, ça, ce qui est super, c'est que ça peut varier tout le temps, c'est très facile à faire, c'est super beau. Et genre, vous prenez un grand bol, hein, parce que vous avez une grande faim, et puis vous mettez des légumes de saison dans les deux tiers du bol. Alors ça peut être des légumes rôtis, vous les mettez avec un petit peu d'huile et d'ail au four. Vous faites rôtir ça légèrement, vous mettez un petit peu de salade aussi, ça fait deux tiers du bol. Dans un tiers du bol, vous mettez, du riz complet, de la quinoa, une céréale. Vous ajoutez quelques légumineuses, alors soit un petit peu de tofu, peut-être des pois chiches écrasés, ou des falafels, quelque chose comme ça, un petit peu d'houmous. Vous rajoutez une bonne petite sauce. Vous mettez éventuellement des petites graines germées, des petits trucs sympas, des noix. Et là, vous avez un bol multicolore avec plein de saveurs, avec plein de textures, avec aussi plein de bonnes vitamines et minéraux. Et voilà, vous allez vous régaler, quoi.
Et voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai faim. Merci beaucoup, Mel. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire ça dans leur coin, vous avez aussi créé un atelier. Vous pouvez en dire un dernier mot, s'il vous plaît?
Ouais, je suis donc la fondatrice de la Parenthèse Végétale, c'est à Paris 20e, et c'est un endroit où on se forme à la cuisine végane, dans la bonne humeur, j'essaie de rendre facile et accessible cette cuisine qui paraît difficile à qui ne la connaît pas et qui en fait est super sympa.
Voilà. Merci, en tout cas, je vous garantis que ces 5 minutes-là, ça montrait à quel point cuisiner végane, ça pouvait être simple, ça pouvait être bon, et puis ça peut permettre d'avoir du sens dans sa cuisine. Merci beaucoup, Mel.
Super.
Je redonne l'adresse de votre site, c'est pigut.com, P-I-G-U-T, et bien évidemment, nous, on rediffusera le lien sur la page Facebook de Ça commence par nous. Je vous remercie à nouveau, et tout de suite, on marque une petite pause musicale. Juste après, on se retrouvera avec Charles Dédény pour son Focus Zéro Déchet. Allez, à tout de suite.
Je suis avec cette femme pour une longue story. Des fois on se fait mal et puis on se corrige. Je suis avec cette team pour de longues années. On fronce ma main, on fait le taf grave et on pionce après. J'ai les vannes là que le don ça paye. Je veux l'or, l'argent et le bronze après. Y'a plus d'énergie que si on s'arrête. Y'a trop de rappeurs doués pour faire le boss. Mais ça me fait pas peur, je suis une bête de scène. C'est mon oreille qui siffle comme une fête de gosse. Mais ça me fait peur, je suis en quête de zen. Mec, s'te plaît, c'est de gueuler fort quand tu viens au concert. Je suis handicapé. C'est ma technique pour chauffer la salle chez les gens d'ici ou les gens du Cap Vert. Tout est clair dans ma tête. Quand le modèle fait le taf, mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verte. Chaussures Puma sur les pieds, j'applique quand même des dress codes. Ouais maintenant, je peux pas laisser passer cette prod. J'habite seul, c'est plus facile, mais j'applique quand même des dress codes. Ouais mais ouais, le thème est plus ou moins trouvé. 2h30 de pause en tout, mais ça m'a pris toute la journée. Moral de luxe 2018, je suis entouré que des meilleurs comme le Touré, j'ai juste envie de faire des scènes, passer tout de suite au dessert. J'arrive même plus à fantasmer sur une jolie playa. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verte. Chaussures Puma sur les pieds, j'suis dans les nuages, dur de perdre. J'fais des murs de texte et des purs de verte. Tout est clair dans ma tête quand le modèle fait le taf, mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau. N'empêche
empêche que tout éclaire dans ma tête quand le modèle fait le taf. Mais j'ai pas encore trouvé le thème qu'il faut. Des fois j'oublie toute une histoire, un peu comme dans Men in Black. J'ai l'impression de rester au même niveau.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes bien avec nous dans l'émission Ça commence par nous. Tout de suite, c'est le moment zéro déchet tant attendu et je laisse le micro à Charles, un nouveau venu de la team Edeni. Salut Charles.
Salut Julien.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui ?
Plein de choses autour du véganisme. En fait, le hasard fait que le débat sur le véganisme refait surface depuis la semaine dernière avec un article dans Libération, très affirmatif mais pauvrement étayé. Que l'on soit végan ou pas, l'approche journalistique de cet article est à revoir, mais a eu l'intérêt de réveiller les véganes de France qui représentent aujourd'hui près de 5% de la population, sans compter les flexitariens. Et comme diraient les Chinois, toute crise est une merveilleuse opportunité. Alors réaffûtons nos arguments sur la vie végane. Il y a trois principales raisons de devenir végane. Se soucier de la cause animale et rejoindre les antispécistes. Se soucier de sa santé, car des études de l'INSERM ont révélé qu'un excès de viande augmenterait le risque de cancer, notamment colorectal. Se soucier du dérèglement climatique, car l'élevage est très émetteur en gaz à effet de serre. N'ayant pas un temps limité, et pour compléter nos invités, je vais me concentrer sur l'impact du véganisme dans la réduction des émissions. En effet, tout le monde sait qu'il faut réduire rapidement nos émissions, mais très peu savent pourquoi il y a urgence. Une fois émis, le CO2 et le méthane vont réchauffer la planète, durant une très longue période. 100 ans pour le CO2, 12 ans pour le méthane, sachant que ce méthane est tout de même 25 fois plus puissant que le gaz carbonique en potentiel de réchauffement. Ce que nous émettons aujourd'hui réchauffera notre planète jusqu'en 2118. C'est cette inertie qui doit nous faire réagir tout de suite, sinon le réchauffement sera incontrôlable. Pourquoi le véganisme est un des axes pour réussir ce challenge ? Car selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en 2010, l'agriculture et la déforestation représentent 14% plus 14%, soit 28% des émissions de gaz à effet de serre. Tandis que l'énergie caracole en tête avec 35% et les transports prennent la troisième place avec 18%. Bref, s'attaquer à notre mode d'alimentation semble être une voie efficace pour participer à l'effort collectif de réduction. Néanmoins, je me dois de détailler plus ces chiffres pour une bonne compréhension de l'impact de vivre vegan. Oui, car toutes les émissions de l'agriculture et la déforestation ne peuvent être imputées à l'élevage. L'élevage représente 25% des émissions de l'agriculture et la déforestation est due à 80% à cause des plantations de soja destinées à cet élevage. Donc si le monde devient vegan, alors on serait en mesure de réduire de plus de 14% les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui serait nécessaire mais pas suffisant pour atteindre les objectifs ambitieux de la COP21, moins 40% d'ici 2030. Pour finir sur une note légère, je voulais vous partager le fait que des personnalités, loin d'une image végane, l'étaient en réalité, telles que Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1. J'en profite pour lui adresser une invitation personnelle au bootcamp Edeni, afin qu'il retrouve une certaine cohérence entre son véganisme et son métier quelque peu polluant. Pour cet atelier antispéciste, chez Edeni, on invitera aussi Al Gore, Mike Tyson, Pamela Anderson, Brad Pitt, DiCaprio ou bien James Cameron qui sont d'éminents véganes.
Il est urgent d'agir et en plus, ce que tu es en train de dire, c'est qu'être végan, c'est aussi être cool. Exactement. Merci Charles pour ton focus zéro déchet. Nous, on se retrouve tout de suite, tout à l'heure, pardon, pour le débrief. On enchaîne, on vous parle de véganisme, on vous parle de pourquoi c'est aussi important à la fois sur l'environnement, comme tu l'as très bien dit, mais aussi bah, dans notre position en tant que société, en tant qu'être humain, de cohabitation avec les autres espèces vivantes. Et on peut continuer, on va continuer dans cette tendance en accueillant tout de suite Shaima Bourguiba qui est la cofondatrice d'Aujourd'hui Demain. Aujourd'hui Demain, c'est un concept store 100% éthique et éco-responsable. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Bonjour Shaima.
Bonjour Julien. Alors
t'as dit, un concepteur éthique et éco-responsable. Et avant tout vegan. En fait, il est ces trois choses à la fois. Déjà, quand on dit éthique, pour nous, ça englobe une vision globale. Donc, dedans, on va retrouver éco-responsable, on va retrouver socialement responsable également. Et le véganisme, c'était une évidence pour nous, parce qu'on est vegan et en créant Aujourd'hui Demain, on a voulu un petit peu résoudre notre problème de vegan, c'est-à-dire trouver des produits en accord avec nos convictions. Et tout le reste qui suit derrière, en fait, donc le côté éco-responsable, socio-responsable, vient aussi de notre façon à nous de consommer. Donc nous, on a acheté que des choses, on était certains que derrière, il n'y avait pas d'exploitation ni humaine, ni animale, ni de dégâts trop importants sur l'environnement. Et on trouvait dommage, en fait, qu'on ne trouve pas cette offre-là réunie dans un seul endroit où on peut juste entrer, être en toute confiance, un espèce de boutique feel good, tu vois, où tu sais que tu peux acheter les yeux fermés et que ce sera en accord avec tes consciences, ta conscience et tes valeurs.
Ouais, ce que tu dis, c'est très juste. C'est qu'en fait, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas acheter ton alimentation, quand tu vas t'habiller, à chaque fois, tu es obligé de te poser la question et d'aller dans le petit recoin où tu auras enfin l'accès à une alimentation ou à des produits qui te conviennent. Là, vous avez décidé de tout compiler. C'est l'endroit parfait pour le fameux Lewis Hamilton, hein, du coup, c'est ça.
Oui, parce que en fait, quand on pense vegan, par exemple, on va penser alimentation tout de suite.
Ouais.
Évidemment, c'est un impact considérable. C'est le plus difficile à remplacer dans le quotidien, parce que c'est lié à beaucoup de traditions, à un aspect très social très important également. Mais si on réfléchit bien, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on va se mettre sur la peau, qu'on va utiliser pour son hygiène, ses cosmétiques, etc., ça a un impact énorme parce que c'est dans le quotidien de millions et de milliards de personnes, en fait, finalement. Et c'était un petit peu absent de l'offre végane qu'on trouvait. Et c'est dommage parce que c'est un vrai sujet qui a un vrai impact sur les animaux, sur l'environnement également, et sur les humains aussi. Parce que aujourd'hui, la consommation, celle qui est la plus accessible, donc la moins chère, la plus accessible partout, malheureusement, elle n'est pas toujours produite dans des conditions optimales pour personne, en fait. Et c'est assez dommage. Donc nous, avec Aujourd'hui Demain, on voulait montrer que dans le véganisme, on parlait d'alimentation, mais on parlait aussi d'autres choses qui impactaient le quotidien, et que tout ça, ça pouvait être bénéfique à plein de gens et à la planète.
Donc pas de laine, pas de cuir.
Pas de laine, pas de cuir, de pas de soie, pas de cire d'abeille, pas de fourrure évidemment.
Ouais. Ouais, non, mais du coup, on se dit, ouais, mais attends, il n'y a rien dans son magasin. Et pourtant, et c'est aussi pour ça que je suis hyper content de vous accueillir et de t'accueillir pour présenter ce concept, c'est que là, on est complètement dans la tendance de être vegan, c'est être cool, c'est avoir accès à des produits de qualité, des produits beaux.
Ouais. Bah oui, parce que, en fait, moi, je suis devenue vegan il y a 5 ans et j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup les chaussures.
Ouais.
Et très franchement, je m'embêtais vraiment beaucoup quand je suis devenue vegan et qu'il fallait que je trouve des chaussures vegan, fabriquées dans des conditions éthiques, pas en PVC dégueulasse. Franchement, je me faisais vraiment chier au niveau de ce que j'achetais.
C'est une quête, hein, c'est ça.
Et c'est ça, c'était une quête un petit peu éternelle sur Internet pendant des heures et des heures. Et ça m'amusait assez de le faire parce que je suis très curieuse et que j'aime bien tout découvrir et tout ouvrir tous les tiroirs un petit peu. Mais avec Raphaël, donc, et mon associé, on se disait, mais quelqu'un qui veut devenir vegan, il se retrouve face à cette espèce de mur de « Oh purée, ça va me compliquer la vie comme pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, non, flemme. » Et du coup, c'est tout ce que nous disaient nos potes, en fait. Mais c'est bien ce dont vous parlez, c'est important. Effectivement, le sort des animaux, ça me touche. Mais ouais, c'est pas pour moi.
Ouais.
J'ai pas le temps, j'ai la flemme. Et on trouve que c'était un frein qui était finalement tellement pas si important, finalement, donc on n'était pas loin de pouvoir abattre avec juste en proposant une offre, en la mettant dans un beau paquet, un paquet qui pouvait parler à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire une boutique un petit peu austère.
Non mais disons-le, c'est hyper important parce que quand on rentre dans votre magasin, on a l'impression d'être dans un magasin vraiment branché, on a l'impression d'être hyper cool.
Bah oui, parce que en fait, bon, je ne dis pas que je suis branché et cool, mais en gros on ne trouvait pas d'endroit, de lieu qui nous ressemblait. Et on était persuadés dans le fond qu'il y avait d'autres personnes qui étaient à la recherche de ça. Et grâce à notre campagne de crowdfunding, on s'en est aperçu, c'était vrai, c'était incroyable, un truc qui était juste dans nos têtes en fait, c'était partagé par plein de gens. Donc il y avait ça, et puis il y a aussi le fait que si on veut que le véganisme, enfin c'est une des pistes, hein, si on veut que le véganisme touche de plus en plus de monde et entre dans le quotidien de plus en plus de gens, il faut finalement le banaliser en fait.
Ouais, tout à fait.
Il faut plus que ce soit quelque chose d'extraordinaire d'être vegan. Donc ça doit être du coup plus simple. Et pour que ce soit plus simple, et pour que ça touche plein de gens, donc le mass market, la consommation de masse, et ben il faut effectivement que ça corresponde à des codes dans lesquels les gens peuvent se retrouver.
Le rêve, ça serait que finalement, on croise des véganes dans la rue sans se rendre compte qu'ils sont véganes.
Mais c'est déjà le cas. Ah. Mais le rêve, ce serait que tous les gens qu'on croise dans la rue soient véganes. Mais clairement, oui, il y a vraiment une population qui en demande. En fait, nous, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'on s'attendait à ce que nos visiteurs ils soient 70% véganes, 30% curieux, curieuses. Et en fait, c'est l'inverse.
Bah oui,
et c'est
sûr.
Complètement incroyable, en fait. Parce qu'on a... Bon, les véganes, on savait qu'ils viendraient, en fait, parce que c'est un truc très communautaire. On veut soutenir les initiatives véganes, donc on y va. Notre communauté a été extrêmement importante dans la réalisation du projet. Qu'est-ce que je disais? J'étais où au début?
T'étais en train de dire que les gens qui venaient, ils n'étaient pas forcément convaincus.
Du coup, nous, on savait que les véganes viendraient, et ceux qu'on voulait convaincre, ben, c'était les pas convaincus.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment notre mission profonde, en fait. C'est de casser les murs, sortir le véganisme un petit peu son entre-soi, et que les gens aient plus peur d'y aller et de rentrer, quoi.
Et ben voilà, et ça c'est dit. Ça marche, et aujourd'hui, demain, c'est des fringues, c'est des livres, c'est de la nourriture.
Ouais.
Qu'on peut acheter, mais aussi plein de plats préparés, manger, un coffee shop.
Ouais.
Quoi d'autre? J'oublie.
C'est des cosmétiques, c'est des produits d'entretien pour la maison, c'est des produits pour les animaux, c'est des produits pour les bébés, c'est des bougies. En fait, c'est assez rigolo parce qu'on a plus de 2000 références.
Ouais.
Et en fait, qui vont toucher plein de petits points du quotidien.
Locant.
Et notamment des préservatifs. En fait, les gens viennent, voient des préservatifs véganes, disent « Mais préservatif, c'est vegan ?» Bah non, il y a de la protéine de lait, en fait, dans la plupart des préservatifs. Et c'est assez rigolo aussi, ça, de montrer que le diable se cache dans les détails, entre guillemets.
Oh là là,
et en fait, finalement, il y en a partout, partout, des produits d'origine animale.
Dernière chose qu'on n'a pas dite, où est-ce que ça se trouve?
42 rue Chemin Vert, non, Paris 11e.
Et voilà, je te remercie, Shema. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le temps d'y aller, il y a quand même un site internet, c'est aujourd'hui-demain.com. Et nous, on vous donnera bien évidemment toutes les infos sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite, on se fait un nouveau break musical et on revient juste après avec Mélanie qui nous partagera le bon plan de One Art.
Je te propose un deal, un truc poussiéreux comme un vieux vinyle. Voyage dans le temps. T'entends, passe dans les ans, carrière, je me prie pour baiser voler dans le revanné du cou, chapeau du bison. Un must, un grand rendez-vous de l'eau, petit ami. Espoir sans histoire, pas de méchant dans le placard. Tu sais, j'ai peur du noir. Un rendez-vous bizarre. Chic et ringard. Encore une tête serrée, placée dans ta cagette secrète. Qu'elle me balise. Qu'est-ce qu'elle chouine dans mes pas. Qu'elle te tous vraiment mes pires. Idole, sucré, souple. Un peu indécent.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Après ce doux berceau de saxophone qui nous a enivré les oreilles, vous êtes bien de retour dans l'émission Ça commence par nous. Et je laisse tout de suite le micro à Mélanie qui va nous parler de son bon plan. Salut Mélanie.
Salut tout le monde. Alors Julien, je ne vais pas parler d'un bon plan, mais de trois bons plans.
De trois bons plans
pour le même prix. Parce qu'on est sympa.
Incroyable.
Alors aujourd'hui, nous, on va briser le mythe selon lequel la cuisine végane n'est pas savoureuse, n'est pas consistante et n'est constituée que de graines. C'est faux. Je vais vous donner donc, comme je le disais, trois bons plans. Ce sont trois adresses qui sont réparties au sud de la France. Vous pourrez raviver vos papilles et savourer des créations 100% végétales. Promis, vous ne serez pas déçus. Donc, nous partons d'abord à Bordeaux, 21 rue des Augustins, plus précisément à deux pas de la place de la Victoire. Je ne sais pas si vous connaissez le Munchies Coffee Shop. Donc, le café annonce rapidement les couleurs, 100% vegan, 100% cool et 100% love. Leur spécialité, c'est un hot dog végé revisité et des Buddha Bowls qui évoluent au fil des saisons, des boboons vegan avec des nems au soja caramélisé et du tofu mariné. Ça donne super envie, non?
J'ai trop faim.
Ouais, moi aussi, là, j'ai un peu la faim. Et si je vous disais qu'il y avait aussi des pâtisseries à partir de 2 euros? Comme quoi, il est possible de manger vegan sans pour autant se ruiner. Le café propose aussi des formules étudiantes abordables. Les produits utilisés sont autant que possible locaux et ou bio. Et lorsqu'on parcourt un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ce ne sont pas que les végétaliens qui y vont, mais un grand nombre de personnes qui sont juste curieuses de découvrir cette nouvelle façon de consommer, et ben ils y vont et ils apprécient parce que c'est savoureux. Donc je vous invite à aller voir le café Munchies à Bordeaux.
Et d'un.
Et de deux, à quelques mois de l'été, oui je sais, on vient à tout juste d'accueillir le printemps qui est d'autant plus très glacial, mais à quelques mois, des beaux jours ensoleillés où vous vous baladerez, où vous aurez envie de vous poser en terrasse à la recherche de glace, de boissons désaltérantes et de sorbets, parce que vous aurez trop chaud, eh bien nous on va vous donner un spot de nos One Art Spots que vous pourrez retrouver à Marseille, 73 Cours Julien. Il s'agit du glacier Ego Glacier, donc ce sont des glaces artisanales et bio, et il propose une gamme végétale, sans gluten ni lactose, à base de jus de soja bio pressé, le tonu. Donc il y a une quinzaine de parfums, mais aussi à base de lait de coco et une quinzaine de parfums également. Donc ça fait un large...
Ça fait du choix.
Ouais. Ah, ça fait pas mal de choix. Ouais. Donc les glaces sont en libre service au poids. Et pour 100 grammes, vous en avez pour moins de 4 euros. Donc encore, c'est un bon plan.
Et de deux.
Et le dernier bon plan, toujours pour un plaisir gustatif et une explosion de saveurs, c'est Vegan Gorilla, situé à Nice, en plein cœur de Nice, pas très loin de Villefranche-sur-Mer. Le chef Willy Berton a obtenu le titre de maître restaurateur, c'était en juin dernier, et c'était la toute première fois qu'un chef vegan recevait un tel titre décerné par l'État. Le restaurant propose des plats sans gluten, concoctés à partir de produits frais, issus exclusivement de l'agriculture biologique et surtout de producteurs locaux. C'est très important pour eux. Donc vous retrouvez des plats raffinés, voire semi-gastronomiques, qui brisent le préjugé selon quoi la cuisine végétalienne est trop ennuyeuse et fade. Donc on ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir par vous-même. Et là, ce ne sont là que des bons plans, hein. Je vous en donne quelques-uns, mais vous pouvez retrouver toute une panoplie sur One Art Spot.
Sur One Art Spot, sur Vego Resto aussi, comme nous le disait Olivier.
Exactement.
Tout à l'heure. Merci Mélanie, ça donne envie. Et puis cette fois, c'était directement adressé à toutes ces personnes qui nous écoutent dans le sud de la France. J'espère que vous avez pris bonne note de tous ces bons plans.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, on parle bien de véganisme et pas de végétalisme. Tout à l'heure, je disais ça et ça concerne juste l'alimentation. Incroyable comme quoi, des fois, on a des idées dures dans la tête et ça fait du bien de recevoir des gens inspirants pour remettre un peu sur la table ces sujets et voir plus clair. On entre maintenant dans la dernière ligne droite de l'émission, dans le débrief. Et moi, la première question que je voulais vous poser, c'était vous, votre parcours personnel, votre déclic, d'où est-ce qu'il vient? Olivier, comment tu t'es dit, tiens, pourquoi je change mon alimentation? J'imagine que tu t'es pas réveillé un matin membre de L214.
Alors non, effectivement, je me suis réveillé un jour où je suis allé au salon de l'agriculture avec mon fils qui avait un an et quelques à l'époque, qui était vraiment tout petit, parce que j'ai des éleveurs de vaches dans ma famille, hein, donc comme beaucoup de véganes, je ne suis pas dans un ghetto. Et donc au salon de l'agriculture, j'ai vu mon fils avec plein d'autres enfants qui se jetaient sur les animaux, qui leur faisaient des câlins, qui leur bouffaient les poils hein, au sens littéral. Vraiment, on voyait que tous les enfants avaient vraiment une sympathie, une empathie naturelle pour les animaux. Et juste à côté de ça, à quelques mètres, il y avait un enclos où il y avait une vache qui était prise au bout d'une corde, hein, vivante, mais qui était vendue prix carcasse. Donc elle était vendue à son poids, donc moins 15%. Donc qui correspondent aux viscères et aux os. Donc elle était vendue déjà morte tout en étant vivante, en étant promenée. Et j'ai eu une espèce de flash. Je me suis dit, mais si j'étais à la place de cette vache, quoi, qu'est-ce que ça fait d'être vendue déjà morte? Et là, je me suis dit, entre les enfants d'un côté et cette vache de l'autre, qu'on était complètement schizophrène dans notre approche des animaux, dans notre rapport à eux.
C'était trop d'un coup, là.
Ouais, c'était trop d'un coup. Et les deux côte à côte, c'était flagrant. Et voilà, et comme j'ai toujours été un écolo aussi assez pratiquant, et quand je me suis rendu compte de ce que ça coûtait, c'est-à-dire environ 15 000 litres d'eau, hein, même si les chiffres varient pour faire un kilo de bœuf, moi qui économisais mon eau vraiment d'une façon fervente toute ma vie, je me suis vraiment dit que j'avais pris le truc à l'envers et qu'il vaut mieux prendre des bains et être vegan que d'économiser son eau et de bouffer du bœuf. Voilà,
ne prenez pas de bain pour autant, mais effectivement, moi, le dernier chiffre là, qui m'a fait mal, c'est un hamburger tout entier. En eau, il correspond à une douche qu'on prend tous les jours pendant 3 mois. Et voilà, ça c'est fait.
Exactement, voilà. Si on veut manger 2 steaks ou 4 steaks par an, il suffit juste d'arrêter de prendre complètement des douches et c'est gérable, on garde son empreinte écologique.
Et toi, Shaima?
Moi, je suis arrivée au véganisme en me demandant ce que je mangeais et pourquoi je le mangeais. Parce que j'étais arrivée à un moment où j'étais déconnectée de ce que je mangeais, c'était un peu machinal. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ça c'est dans mon assiette et pourquoi je devrais manger ça et pas autre chose? Et donc j'ai tapé quelques mots-clés sur Internet et donc je suis tombée d'horreur en horreur sur l'industrie de l'élevage et de la pêche. J'ai compris qu'une alimentation végétalienne, ça pouvait être intéressant d'un point de vue santé et que les dégâts causés sur les animaux étaient un peu des dommages collatéraux. Je m'arrangeais avec jusqu'au jour où j'ai lu une interview de l'auteur Jonathan Safran Foer, qui est auteur du livre « Faut-il manger les animaux ?», qui disait que dans l'industrie, les animaux malades, maltraités et malheureux, c'était pas une exception, c'était la norme. Et donc là, j'ai compris, j'ai pris conscience du cynisme, en fait, de cette industrie et de notre consommation des animaux. C'est complètement absurde, c'est un gâchis monumental et c'est d'une tristesse incroyable.
Voilà, la dernière claque que je me suis pris comme ça, c'est en regardant le film Okja. Je ne sais pas si vous l'avez vu, O-K-J-A, je vous le recommande vivement. Vous l'avez vu, les gars?
Non, moi je ne l'ai pas vu.
Pas encore.
Non, il est vraiment... c'est une histoire toute bête, je ne vous en dis pas plus, mais qui fait vraiment réfléchir. De votre côté, vous en avez un peu de ces déclics? Vous êtes en cheminement? Alors, par rapport
moi,
à ces questions?
Je ne suis pas végane, malheureusement, mais j'ai découvert quelques adresses très très cool. Il y a 2 ans maintenant, il y a un petit resto vegan qui s'est installé dans la rue où on travaille. Donc moi, je ne connaissais pas du tout la cuisine végétalienne. Je me suis dit, bon, Mélanie, va faire un tour, ne t'arrête pas sur des idées reçues comme quoi c'est pas savoureux, t'auras encore faim. Enfin voilà, j'avais des idées un peu reçues sur cette chose. Donc je suis allée faire un tour au Veganovore qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Donc Elsa, si t'es quelque part en France et que tu m'entends, je te remercie, je reviens parce qu'elle m'a fait découvrir en fait une cuisine nouvelle, mais hyper savoureuse. Et je passais mes 3 jours par semaine là-bas. J'étais une fervente cliente tous les jours, quoi. Et c'était un délice. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi bon sans aucun produit animal. Alors que voilà, j'apprécie de temps en temps me faire une bonne table, de temps en temps manger de la viande, du poulet.
Je suis en train d'expérimenter les limites de la radio puisque je vois les étincelles dans les yeux de Mélanie qui parle de ce restaurant végétalien.
Non, mais elle m'a marqué. C'était une tuerie. Son dessert à la patate douce, mais... Oh.
Mais alors pourquoi? Pourquoi on parle de ça? On en parle avec optimisme? Pourquoi on en parle avec bienveillance? Et pourquoi trop souvent, quand on rentre dans ces sujets, autant du côté des ardents défenseurs de la cause végane que des côtés de ceux qui la dénoncent, on en vient à être presque dans un combat de tranchées? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Tu nous en parlais tout à l'heure, Charles, toi, de cet article de Libé. Pourquoi?
Je pense qu'il y a une grande méconnaissance du sujet, et moi le premier, je suis en train de lire Antispéciste d'Émeric Caron, qui est très intéressant et qui me fait découvrir vraiment un nouveau monde, et je pense que je conseille ce livre à beaucoup de gens pour découvrir la problématique, les chiffres, d'où on vient, pourquoi on fait ça, et pour revenir, voilà, comme disait, vraiment à la genèse de pourquoi on mange autant de viande, et c'est un très bon livre pour avoir un point de vue éclairé. Voilà. Sans transition, j'avais une question, pourquoi ça s'appelle L214?
Alors, ça s'appelle L214 en référence à l'article du Code rural, donc qui date de 1976, et qui dit que tous les animaux doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Donc, c'est une, voilà, c'est, en fait, c'est complètement... On arrête l'élevage demain, si jamais on applique cet article du Code rural. Donc, c'est assez... Enfin, pas vraiment ironique, mais en tout cas, c'est une façon de mettre le doigt là où ça fait mal, sur le fait que, bah, aujourd'hui, dans l'élevage, on adapte les animaux à l'économie, c'est-à-dire qu'on coupe le bec des poules pour éviter qu'elles se bouffent entre elles, on coupe la queue on meule les dents des porcelets pour éviter qu'ils se mordillent entre eux aussi, on castre sans anesthésie les porcelets aussi à la pince, hein, pour ainsi dire, à la naissance. Donc en fait, voilà, aujourd'hui c'est l'inverse qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte économique et on adapte les animaux à cette contrainte économique.
Moi je suis désolé, je remets les pieds dans le plat, hein, mais pourquoi tant de violence, pourquoi tant de haine, Olivier? Pourquoi il y a des gens qui sont aussi sensibles à la cause végane et qui deviennent virulents à l'extrême?
Alors en fait, sur la violence et sur la haine, je pense que d'abord tout le monde aime les animaux, c'est vraiment, ça fait partie, on a tous de l'empathie pour les animaux. Après, cette empathie, elle est anesthésiée par nos habitudes, par notre façon de manger, par notre plaisir gustatif aussi. En fait, on arrive très bien à mettre de côté notre empathie envers les animaux au moment de passer à table et de manger, et elle revient après, hein, en courant de la digestion, on ne sait pas trop à quel moment.
Une schizophrénie qui nous permet d'arriver à vivre avec ce qu'on fait sans problème.
Ouais, c'est ce que Martin Gibert, dans son excellent livre « Voir son steak comme un animal mort », appelle la dissonance cognitive. Donc c'est un concept connu en psychologie, en fait, où voilà, on a deux idées différentes et on crée des espèces de raisons pour faire des passerelles entre ces deux idées, entre d'un côté notre goût gustatif, hein, notre plaisir gustatif, et de l'autre côté notre éthique, et on arrive à créer des passerelles. Une de ces passerelles, elle est très connue, c'est « bah oui, mais on a besoin de manger de la viande, sinon on meurt ». Voilà, c'est vraiment, c'est une passerelle de dissonance cognitive évidente, hein. D'autres, c'est si jamais on arrête d'élever les animaux, ils vont alors slash soit disparaître, soit nous envahir. Souvent les deux à la fois, hein, quand on discute avec les gens.
L'invasion des moutons ravageurs.
Exactement. Et donc voilà, tout ça, en fait, on se crée des passerelles pour ça. Parfois, on a effectivement le sentiment qu'il y a des véganes qui sont virulents, qui sont agressifs, etc. Faut savoir que devenir végan, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est se prendre une bonne grosse claque dans la tronche au départ. C'est rarement facile de se rendre compte que bah, on a vécu dans une espèce d'illusion, qu'on a été bercé par des mensonges, qu'on s'est souvent menti à soi-même toute sa vie. Voilà, sur la nécessité de manger de la viande, etc. Et le jour où on s'en rend compte, bah, c'est pas facile. On se remet vraiment en question. Notre entourage, il nous comprend plus. Quand j'ai arrêté de manger de la viande, les gens étaient comme des fous autour de moi, ils comprenaient pas ce qui se passait. Donc voilà, tout ça, ça crée souvent des comportements qui peuvent être agressifs. Et puis une fois que nous, on comprend ce que c'est l'exploitation animale, on la combat viscéralement, et on se rend compte que les gens autour de nous, bah, ils changent pas tant que ça. Et on a beau leur expliquer, bah, avec cette dissonance cognitive, justement, ils arrivent à ne pas en tenir compte. Et donc, on a l'impression que suffirait d'expliquer aux gens et que oui, ils vont comprendre, ils vont changer. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est ça qui rend parfois le militant vegan, mais comme d'autres types de militants aussi, hein, ça se retrouve dans tous les combats.
On est d'accord. On est lancé sur une super dynamique, et moi j'aimerais bien creuser, malheureusement l'émission elle va toucher à sa fin. Moi j'aimerais juste terminer avec cette expression que j'ai fait mienne et qui me porte vraiment, c'est l'expérience est une lumière qui n'éclaire que celui qui la porte. Alors oui, peut-être que les personnes qui ont déjà cheminé sur cette question du véganisme et qui ont décidé d'en faire leur chemin de vie, et ben ils peuvent le communiquer autour d'eux, et à la fois il faut réussir à prendre les uns qui partent aussi de leur avancement, avec leur expérience, leur histoire. Donc essayons, en tout cas c'était vraiment le message que je voulais passer avec cette émission, et vous l'avez fait merveilleusement bien. Je vous remercie d'arriver à avoir cette bienveillance, cet optimisme, ce jugement qui ne vient pas tout détruire, pour faire en sorte que bah voilà, ce mouvement il soit de plus en plus exponentiel, et que vegan, ça soit non seulement cool et puis complètement invisible, puisque complètement part de notre société. Je vous remercie tous pour votre intervention de qualité. Pour rappel, on a eu Olivier Gramin de L214, on a eu Mel Pigu du blog pigu.com, et aussi, hein, elle le disait, de la parenthèse végétale, son atelier qu'elle a créé, et je vous invite en l'occurrence à aller sur la parenthèse végétale.fr. et on a eu aussi Shema Bourguiba, cofondatrice d'Aujourd'hui Demain. Je remercie également notre équipe de chat avec Mélanie Douanart, qui nous a donné ses trois bons plans pour le prix d'un, Charles Dédény pour son Focus Zéro Déchet, Raphaël et Fabrice de l'équipe de Rage.
Ça commence par nous.
Allez, après cette heure d'émission, j'espère que vous y voyez plus clair sur le véganisme et que ça vous permettra d'aborder de manière plus optimiste et bienveillante ce sujet primordial pour l'amélioration de notre société. Petit point agenda pour ceux qui veulent aller plus loin et expérimenter du concret, n'hésitez pas à faire un tour à Paris Vegan Place, qui sera organisé par L214 le 28 avril, place de la Bastille de Stalingrad, dans le place de la bataille de Stalingrad dans le 19e arrondissement. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, sur rage.fr, mais aussi sur iTunes. Vous l'entendez, on est hyper à la bourre. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de comment faire du sport et changer le monde en même temps. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous. Et je vous dis à samedi prochain, 13h. Allez, salut!